L'industrie pharmaceutique est rayonnante. Cette industrie est axée beaucoup sur les médicaments de marque. Il y a également les médicaments génériques. Donc ces médicaments génériques sont-ils un marché important? Comment se développent-ils? Est-ce qu'on peut encore innover dans le générique? Voilà des questions qu'on va traiter avec Jamila et Yvan. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Donc vous êtes étudiant en master à l'université de Lille dans le cadre de l'IAE. Vous faites vos études donc dans cette école IAE et vous avez préparé depuis un certain temps une conférence qui va être donnée mercredi 13 janvier à 18h à l'IAE de Lille, avenue du peuple belge.
Voilà, exactement.
Donc l'idée de voir l'impact des médicaments génériques, l'évolution de la commercialisation de ces médicaments, est-ce que aussi c'est un marché porteur peut-être pour les laboratoires français? On ignore un peu ce monde particulier de ces médicaments génériques. On sait que ça existe, on sait qu'on nous incite à les utiliser, la sécurité sociale.
Tout à fait.
Ouais. Mmh. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un développement de ce médicament générique? Quels sont les laboratoires qui les produisent et quelle est l'économie qui s'y greffe? Donc, Jamila, le groupe qui a été constitué à l'IAE, ce sont 4 étudiants?
Oui, exactement. Donc 4 étudiants, dont 2 scientifiques et 2 personnes issues du marketing.
Donc vous êtes issus du marketing, on va dire aussi?
Tout à fait, oui, ainsi que Nelio Tatala et Aïcha Watou et Yvan Mfounia font partie du côté scientifique.
Tout à fait. Voilà, donc des doubles binômes, on va dire.
Mm-hmm. Tout à fait complémentaires.
Complémentaires. Et est-ce que par rapport à ce projet, vous avez tout de suite été intéressé par le thème médicaments génériques? C'est ce qui vous a au départ motivé pour peut-être aussi des développements futurs de votre carrière?
Absolument. Alors, on a d'abord pensé à l'industrie pharmaceutique, puisque ça correspondait à des centres d'intérêt et à des souhaits de carrière. Et ensuite, la problématique des médicaments génériques s'est imposée au vu de la variable innovation de notre diplômé.
Alors, Yvan, du côté de la science, elle évolue sans cesse. Les médicaments génériques, est-ce que dans l'opinion publique, ils ont bon accueil? Est-ce qu'ils sont exactement les mêmes molécules?
Donc, c'est exactement les mêmes molécules, mis à part que c'est juste le nom de la marque qui diffère. Sinon, c'est exactement c'est le même dosage. Et en ce qui concerne la posologie, c'est la même chose. C'est juste uniquement que le nom de la marque qui diffère. Donc, c'est le générique exactement le même que le princeps, mis à part que le générique coûtera moins cher par rapport aux médicaments de marque.
Est-ce que le médicament générique a néanmoins une marque?
Alors effectivement, le médicament générique a une marque qui est soit un annexe au médicament princeps, au médicament princeps, c'est-à-dire que on va avoir une pilule qui va avoir un certain nom et une autre pilule qui aura un nom avec une lettre en plus ou peut-être une syllabe qui sera exactement la même au niveau de la composition et des principes actifs, mais qui sera un générique parce qu'elle n'aura pas bénéficié de la recherche et développement et des coûts marketing, comme nous l'expliquait Yvan, en fait.
Exactement.
Voilà. Donc, il y a une stratégie de marque aussi, mais elle est beaucoup moins importante et beaucoup moins élaborée, puisque ça fait partie, comme vous le disiez précédemment, d'une politique de santé publique. Donc, on communique beaucoup moins dessus, puisque les efforts sont principalement faits de façon institutionnelle.
Est-ce que ces médicaments génériques sont aussi produits par des laboratoires connus, célèbres, et qui ont leur propre marque pour d'autres médicaments?
Oui, tout à fait. Donc on a par exemple Novartis, qui est un laboratoire suisse qui fabrique des médicaments de marque, mais qui ont aussi leur division qui fabrique des génériques, et cette division s'appelle Sandoz. Donc c'est à titre d'exemple. Donc on a pas mal de, justement par rapport à l'arrivée des génériques qui arrivent sur le marché, beaucoup d'entreprises qu'on appelle les big pharma, hein, donc ce sont les entreprises qui ont les médicaments de marque, qui se sont mises à, pour pouvoir contrer en fait cette arrivée des génériques, qui se sont mises à soit développer des génériques, leurs propres génériques eux-mêmes, ou soit éventuellement à racheter des petites compagnies qui font des génériques.
Ces compagnies qui font du générique, est-ce qu'elles sont plutôt françaises ou plutôt européennes ou voire indiennes ?
Donc par rapport dans les années 90, c'était surtout plus les entreprises allemandes, britanniques, américaines aussi qui faisaient le générique. Mais ces derniers temps, on constate que divers pays émergents, comme le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, voire même les pays de l'Est, hein, comme l'Estonie ou la Croatie, se sont mis à fabriquer des génériques, sachant que dans ces pays-là, les coûts de production sont vraiment moins chers par rapport à ce qu'on peut avoir dans l'Europe de l'Union européenne, par exemple en Royaume-Uni ou en Allemagne. Donc tous ces pays-là se sont mis à faire des génériques et à en produire vraiment beaucoup plus. Et donc c'est pour ça qu'aussi on a les big pharma qui commencent aussi à aller vers ces pays-là pour avoir des coûts de production plus faibles pour pouvoir continuer à fabriquer des génériques.
Est-ce que ces entreprises qui fabriquent du générique au travers le monde ont les mêmes capacités, les mêmes qualités de produits ?
C'est exactement comme nous disait Yvan précédemment, la même molécule, la qualité est là et on a même le cas parfois où la molécule est beaucoup plus développée dans un médicament générique que dans un médicament princeps. Je voudrais revenir aussi sur le fait, tout à l'heure vous précisiez médicament avec marque ou médicament sans marque, la distinction ne se fait pas de la sorte puisque comme on disait, les deux médicaments ont une marque, on fait la distinction entre les princeps, les biosimilaires et les génériques. Donc voilà pour ça, et pour ce qui est de la qualité, on a exactement la même composition, et parfois même plus développée, comme je le disais, donc vraiment, il n'y a aucun a priori à avoir par rapport à cela. Oui.
On peut expliciter Princeps ?
Alors Princeps, c'est le médicament de base qu'on a développé, c'est-à-dire comme le Doliprane, l'aspirine, etc. Ce sont les grandes marques que vous connaissez et qu'on a énormément développé. C'est le médicament tel qu'il a été développé à l'origine, donc qui a bénéficié de la recherche et développement des grands laboratoires. Et les génériques, comme nous le précisions, c'est moins de recherche et développement et c'est une sorte de copie médicament Princeps.
En termes de qualité, est-ce que tous les laboratoires du monde qui produisent du générique ont les mêmes compétences ?
En théorie, oui. Ça dépend par contre parce que, en fait, il y a générique et générique. C'est-à-dire que dans l'Union européenne, en général, aux États-Unis ou au Japon, comme nous le disait Yvan précédemment, on a le fait que les grandes entreprises, les big pharma, comme elles sont appelées, vont produire leurs propres génériques. Donc finalement, on va avoir exactement la même qualité, peut-être même plus. Par contre, on a les pays émergents, comme l'Inde principalement, ou même en Afrique, où on va avoir un médicament générique qui ne va pas forcément avoir exactement toutes les mêmes propriétés que le médicament Princeps, mais qui va être beaucoup plus développé en volume, puisque le médicament Princeps dans ce pays n'aura pas bénéficié des protections de brevets. Donc là, on entre vraiment, si vous voulez, il y a une corrélation entre la qualité du médicament, sa quantité et aussi la protection légale dans le pays.
Alors Jamila, vous parlez de médicaments en Afrique, hein, la production donc de génériques, oui. Elle est fortement concurrencée par la production de faux médicaments en Afrique aussi.
Aussi.
Exactement.
Effectivement.
Et ça, c'est le principal problème. Donc ça, on en a parlé une fois avec une dirigeante de Delpharm qui nous parlait aussi, parce qu'il n'y a pas uniquement que l'Afrique, il y a aussi le problème de l'Inde, voire même de la Chine aussi, qui produisent aussi de faux génériques.
Ce sont les impondérables, finalement, voilà. Et c'est quelque chose qui a existé déjà du temps des Princeps. Donc c'est pas une nouveauté, ça n'a pas commencé avec les génériques.
Donc ce qui attire les acheteurs en Afrique, par exemple, c'est le fait que les médicaments soient le moins cher possible, je suppose.
Oui.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un niveau en dessous duquel, si on descend, sont forcément faux ces médicaments ? On peut les repérer comme ça, par le prix trop bas ?
Là, je pense qu'il y a... Bon, c'est pas forcément notre domaine non plus. On n'a pas traité la question dans l'approche qu'on a eue des médicaments génériques. Mais si on a un peu de bon sens, je pense que effectivement, en deçà d'un certain niveau de prix, on peut se douter qu'il y a des contrefaçons inactives en termes de médicaments. Par contre, là, les prix sont vraiment hyper cassés, puisque finalement, il s'agit peut-être de farine, de sucre,
exactement.
Enfin, vraiment des choses...
Des choses qu'on a mélangées, puis on a synthétisées, voilà. Et puis...
Donc, on suppose que dans ce cadre-là, en France ou dans les pays européens, il y a une agence du médicament qui surveille les produits.
Oui. Par contre, la surveillance reste très, très difficile, puisque finalement, ces médicaments-là, ces faux médicaments dont vous parlez, ne sont pas produits sur le sol européen, mm-hmm. mais bien dans d'autres mm-hmm. pays, et la vente se fait exclusivement par Internet. Mm-hmm. Et là, il est beaucoup plus difficile de gérer tous ces réseaux, tous ces flux de vente finalement illégales.
Est-ce que ces ventes qui viennent de l'étranger sont réellement illégales, ou est-ce que... Elles sont autorisées? Est-ce que le fait de commander sur Internet des médicaments à l'étranger est autorisé ou non?
Ah non, alors là, il ne faut pas faire l'amalgame. On parlait auparavant de la vente de médicaments, de faux médicaments. Donc là, je disais que c'était illégal. Mais la vente par Internet de médicaments n'est pas, elle, illégale. Parce qu'il y a des médicaments, par exemple, au Canada, il est très fréquent... puisqu'on n'a pas le même système d'ordonnance, etc., de commander ces médicaments par Internet. Et en Europe, c'est tout à fait possible aussi. Mais il faut avoir des agences qui sont labellisées, confirmées, etc. Il faut connaître aussi la source.
Parler un peu de l'Inde tout à l'heure, c'est quand même un pays où il y a beaucoup de scientifiques, des gens qui ont une compétence réelle, hein. Il y a de très grands médecins aussi en Inde, ils apportent aussi leur savoir-faire. Pourquoi avoir moins confiance en l'Inde, par exemple, que ce qui est produit en Europe?
Ne pas avoir confiance en l'Inde serait limite une erreur. Aujourd'hui, donc l'Inde fait partie, c'est un pays émergent, donc c'est un pays qui monte, c'est un pays asiatique qui monte, donc je ne pense pas, qui peut apporter beaucoup dans le monde, donc je ne pense pas qu'aujourd'hui dire que oui, ne pas prendre de médicaments qui viennent de l'Inde soit une bonne idée.
Est-ce que ces médicaments génériques sont produits au même prix, quels que soient les pays, quels que soient les laboratoires, ou est-ce qu'il y a le moins cher parfois encore à trouver?
Alors là, c'est un peu la loi du marché, finalement. La fixation des prix n'est pas normalisée dans tous les pays. Donc forcément, il y a des pays où on trouvera des prix hyper compétitifs.
Voilà.
Je veux, pour exemple, les États-Unis, où là, c'est vraiment la guerre. Hein, sur le marché pharmaceutique, c'est à celui qui vendra au rabais, finalement. Donc là, en fait, si vous voulez, et je ferai un lien avec la question que vous avez posée précédemment... En fait, dans les mentalités européennes, on a tendance à accorder un gage de qualité aux produits plus chers. Or là, on n'a pas cette même mentalité dans le monde. Donc effectivement, il y a des différences de prix entre les médicaments génériques, mais encore une fois, ce n'est pas nouveau, puisque les médicaments princeps eux-mêmes ont une différence de prix, même si on est sur la même molécule. Donc oui.
Le marché en France est un peu particulier parce que bon, une certaine partie des prescriptions est remboursée de moins en moins d'ailleurs par la sécurité sociale. Ça a un effet sur les médicaments puisqu'on propose maintenant des médicaments génériques et notamment au niveau des pharmacies, une substitution qui est proposée de médicaments génériques aux médicaments princeps. Est-ce que le fait que de moins en moins de médicaments soient remboursés fait que de plus en plus de malades vont chercher les médicaments les moins chers en France ou dans d'autres pays?
Probablement.
C'est un marché qui va donc se développer, le marché étranger ou du bas prix, low price.
Alors justement, il ne faut pas confondre la politique de médicaments génériques avec une politique de santé low cost. Donc en l'occurrence là, ce dont il s'agit, c'est vraiment une sensibilisation parce qu'il faut savoir aussi qu'en France, on a un système de santé unique, mais que ce système ne se suffit pas à lui-même. Donc il faut aussi que des efforts soient faits. Or, là, d'après votre question, on a l'impression qu'on est un peu forcé selon peut-être un revenu, un statut social, enfin que sais-je. C'est pas du tout le cas. C'est pour justement aller dans le sens positif du système et faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier d'une santé, d'un système de santé, tout à fait correct et compétent via les génériques, mais à moindre coût. Donc encore une fois, les génériques, effectivement, ils sont moins chers en termes de prix, mais cela n'enlève rien à leur qualité, encore une fois.
Voilà. De plus en plus de malades, de patients achètent des médicaments qu'ils jugent utiles, alors qu'ils ne sont plus remboursés du tout par la Sécurité sociale. Donc eux, ils ont intérêt à acheter au moins cher.
Par rapport à certains cas, je dirais que voilà, on rentre surtout dans le comportement du client, du patient, mais aussi certains, disons que suivant certaines maladies, on aura des pharmaciens qui vont préférer prescrire le médicament princesse plutôt que le générique. Donc il y a divers cas. Alors il y a le cas pour par exemple le diabète. Pour tout ce qui est le cas du diabète, par exemple, on aura un pharmacien qui aura tendance à prescrire le médicament princesse plutôt que le médicament générique. Donc après, c'est suivant certains cas. Mais ensuite, pour des maladies courantes, comme tout ce qui est rhume, ou le pharmacien aura plus tendance à prescrire le médicament générique s'il ne possède pas, par exemple, le princeps en stock. Donc ça, ce sont des cas d'extrême urgence. Mais sinon, de manière générale, non seulement ça se jouera surtout sur le comportement du consommateur, mais aussi suivant le type de maladie, à ce moment-là, c'est le pharmacien qui prescrira tel médicament générique ou tel princeps.
Et si vous permettez, je rebondirai sur ce que disait Yvan. Donc non seulement, effectivement, le médecin a un rôle à jouer dans la prescription du médicament, donc c'est vraiment une complémentarité des rôles dans le circuit de la santé. Donc le patient, le consommateur, hein, moi je l'appelais le consommateur, doit aussi être un consommateur averti, c'est-à-dire que effectivement le médecin a un rôle à jouer, mais le patient aussi. Et deuxièmement, il y a aussi des génériques qui n'existent pas pour un certain princeps, par exemple pour le cas de l'épilepsie, pour des maladies principalement neurologiques, il y a des médicaments qui ne sont pas encore, donc soit ils ne sont pas généricables pour le moment, soit ils ne sont pas encore génériqués.
Est-ce que vous avez observé peut-être qu'il y a une pression des laboratoires sur les médecins pour vendre plutôt l'original que le générique ?
Oui, alors là c'est une constatation effectivement évidente. Il y a une pression effectivement des laboratoires qui tend à être concurrencée par l'État lui-même, puisque l'État offre certaines conditions aux médecins qui prescriront des médicaments génériques. Donc finalement, on arrive à un certain équilibre maintenant. Mmh. Mais au tout début des génériques, c'est vrai que ça a été la guerre.
Alors finalement, on se rend compte que dans ce contexte, le marketing de l'un ou de l'autre est important. Le marketing des sociétés pharmaceutiques, des laboratoires, et le marketing de l'État qui a aussi envie de convaincre les mêmes médecins.
Tout à fait, oui, mais tout est question de marketing finalement. Mais non, plus sérieusement, effectivement, on a des campagnes de marketing des deux côtés. Donc avec les laboratoires forcément qu'ils vont, vendre leur princeps, et l'État qui lance aussi des campagnes, donc notamment avec deux agences qui s'occupent de la communication institutionnelle. Et on va avoir effectivement des campagnes d'affichage, des petits catalogues pour expliquer. On essaye vraiment, il y a une démarche pédagogique de la part de l'État pour faire comprendre que, effectivement, les génériques peuvent être une bonne solution, oui.
Est-ce que ces deux formes de marketing sont aidées, supportées, cautionnées par les mêmes scientifiques ? Est-ce qu'Yvan, en tant que scientifique, vous êtes prêt à prendre... à aider l'un autant que l'autre dans ce domaine ?
Je suis entre les deux parce que le princeps, comme c'est un médicament original, donc forcément il y a eu beaucoup de recherche et développement, donc je serais plus enclin à encourager les laboratoires qui fabriquent les princeps plutôt que les laboratoires génériques qui ne font que copier.
Donc je pense que ces questions qui sont aujourd'hui uniquement abordées, on les retrouvera dans le cœur de votre conférence que vous donnerez donc ce 13 janvier à 18h à l'IAE. On peut préciser les intervenants qui seront présents ?
Alors on les a choisis en fonction de leur provenance, c'est-à-dire qu'on a vraiment... décidé de donner une envergure au sujet et d'avoir des acteurs de différents horizons. Donc on aura le plaisir de compter parmi nous Madame Anne Gaillot, qui est professeure à l'Université de Lille 2 en Galénique et qui est aussi vice-présidente du conseil d'AMM, donc autorisation de mise sur le marché, notamment des médicaments génériques.
Ensuite, nous aurons Monsieur Guillaume Pacou, donc qui est manager en marketing au sein de la société Bayer.
Voilà. Nous aurons aussi Madame Launay, qui est pharmacienne responsable au sein de Delpharm, qui est un génériqueur.
Et nous aurons aussi Madame Monique Yilmaz, qui est chef pharmacienne à la pharmacie centrale de Lille.
Ainsi que Monsieur Ducrot, qui est pharmacien conseil.
Voilà, donc tout cela ce mercredi 13 janvier, ça se passe à l'IAE à 18h. Le public, c'est le public large, l'entrée est gratuite.
Oui, tout à fait.
On peut poser des questions ?
Oui, alors la conférence se déroulera comme suit. Il y aura une présentation par les étudiants et ensuite un petit débat avec des questions qui seront posées par le public avec une interactivité recherchée. Oui.
Voilà, donc on ne peut... que donner rendez-vous aux auditeurs intéressés par cette thématique, de vous rejoindre à 18h, donc à l'IAE, ce mercredi 13 janvier. Et pour vous, bien sûr, cette expérience entrera aussi dans le cadre de votre projet professionnel.
En effet, donc personnellement, pour moi qui ai l'intention de rentrer dans l'industrie pharmaceutique, ce serait intéressant de pouvoir dire que qu'on a organisé avec un groupe une conférence sur les médicaments génériques et que nous avons travaillé dessus, que nous avons eu quelques contacts. Donc c'est assez intéressant pour moi en tant que scientifique en tout cas.
Jamila ?
Alors oui et non, l'industrie pharmaceutique est une éventualité, mais ce n'est pas mon domaine de prédilection à la base, donc on verra.
On peut peut-être parler aussi de vos collaborateurs sur ce projet ?
Tout à fait. Donc Nelio Tatala, qui est, comme moi, une marketeuse et qui a beaucoup participé, comme nous trois en fait, au projet, qui s'est surtout occupée de la partie innovation, recherche et développement.
Et puis Aïcha Ouattou, qui est scientifique tout comme moi, en plus qui a fait chimie. Donc nous avons travaillé tous les quatre et elle s'est surtout occupée de la partie des acteurs en fait.
Mais merci Yvan Funia.
C'est bien ça.
Et Jamila Boutemer.
Merci à vous.
Au revoir et à très bientôt.
À bientôt. Au revoir.